Dans un voyage d'études au Pérou et donc en Bolivie, bon gré, mal gré, vous avez vécu cette journée mouvementée et c'est un témoignage, votre témoignage, fondé sur les notes que vous avez prises dans votre chambre d'hôtel au soir de ce 17 juillet que vous nous offrez maintenant.
Je me souviens surtout que les gens étaient en bas et tout le monde criait Pueblo Unido, c'est-à-dire unissons-nous. Et que ce qui m'a choqué immédiatement, c'était de voir qu'ils étaient tous sans armes en définitive. Et quelqu'un a crié, tiens, ils sont en train de casser les parcomètres. La seule chose qu'on entendait vraiment, c'était les barres de fer, ces barres de fer qui soulevaient les pavés. On était sept, au 903, on était dans un hôtel au centre de La Paz, l'hôtel Gloria, il y a des noms qui sonnent bien. Et c'était le lendemain du jour de la paix. Le 16 juillet est une fête nationale. Dehors, c'était la fin de la journée, le soleil se couchait, il y a une température assez agréable. On était donc au fond de cette cuvette, avec ces hauts plateaux d'altitude qui bordent la ville de La Paz. Et quelqu'un dans la chambre avait dit, tiens, il n'a jamais fait si bon, on n'a jamais été si bien depuis le début du voyage. On s'est mis à rire, enfin des rires un peu nerveux. On a ri un peu comme ça pendant plusieurs jours. Ce qui nous semblait incroyable, c'était de penser que le matin, on avait pu visiter sans problème la ville. Je me rappelle, je m'étais trouvé par exemple sur le Mirador, un des points les plus impressionnants de La Paz, et j'avais décrit à mon petit groupe tout le processus d'un coup d'État. Et oui, ça paraît si facile de faire un coup d'État à La Paz. La dernière fois, Banzer, qui est un dictateur, était arrivé simplement avec quelques vieux avions et avait bombardé les points stratégiques. Bon, il suffit en fait d'un canon, de quelques mitraillettes, et avec une petite faction armée, on peut envahir cette ville qui est tout à fait indéfendable dans sa cuvette. En décrivant ainsi tout le processus, j'avais involontairement eu quelques prémonitions, puisqu'il restait quelques minutes avant le coup d'État. C'est en fin de matinée, vers c'était 11h30 par là, que nous sommes revenus de la vallée de la Lune, un petit site à l'extérieur de La Paz, et on voulait se rendre au marché des sorciers, sur les hauts plateaux. Enfin, dans la zone la plus pauvre de la ville. Et
une ville très pauvre, d'ailleurs.
De toute façon, les quartiers riches se trouvent tous en bas et les avenues principales, c'est celle du 16 juillet, qui justement était fermée. Oui, le 16 juillet, c'était hier. On a remarqué immédiatement une ambulance qui passait en trombe. Alors, j'ai abandonné mes amis au marché et je suis redescendu seul à pied vers le centre. Et là, j'ai croisé une femme qui m'a crié, vous savez, il y a une fusillade en bas. Bon, j'étais un peu inquiet, mais sans plus. Et vers 1h, je suis rentré dans un petit restaurant, et là, quelqu'un a mis la radio plus fort. Il y avait un communiqué militaire, et on annonçait qu'il y avait eu des fraudes aux dernières élections, qu'il y avait eu plus de 200 000 voix qui avaient été falsifiées à La Paz, que les ordinateurs n'avaient pas bien fonctionné pour Santa Cruz et pour Potosí aussi. Bien, j'ai vu la patronne pleurer, j'ai vu que tout le monde s'était arrêté de manger. Cette patronne, dans un geste un peu touchant, avait simplement dit « la démocratie est morte, hein, c'est faux la démocratie. » Les gens étaient très troublés, les rues s'étaient vidées très rapidement.
Car les gens comprenaient déjà qu'un coup d'État était en
voie de Ils avaient déjà compris qu'il était fait. Pour eux, le coup d'État était déjà terminé, entre guillemets. Ils ont bien l'habitude, c'est le 190e. Et en sortant, j'ai de nouveau remarqué quelques ambulances dans la rue. Je suis arrivé en courant à l'hôtel pour rechercher mes petits Suisses. C'est alors qu'on a appris que vers les 13h, 13h10, on avait attaqué le palais quemado, le palais brûlé, le palais gouvernemental. En fait, on avait remarqué une vingtaine de personnes qui étaient arrivées avec deux camions, il y avait quelques ambulances, et qui ont très rapidement occupé ce palais avec beaucoup de facilité. C'était tous des paramilitaires, comme quelques minutes auparavant, on l'avait fait pour la centrale ouvrière bolivienne, où on avait arrêté Lechín, qui était en train de faire un discours et qui prétendait déjà à midi qu'il fallait faire la grève générale, qu'il fallait interrompre toute forme de travail, bien sûr, et bloquer les communications et les routes. Il n'a pas eu le temps de terminer son discours, puisqu'on l'a attaqué et qu'on a même tué le chef des syndicalistes, un socialiste. Et le palais a été pris, la présidente est sortie quelques minutes après, après avoir été insultée, arrêtée, bien sûr. Et c'est aussi à cet instant-là que j'ai vu mes derniers Suisses arriver en courant de cette même place Murillo. Ils étaient partis sous les gaz lacrymogènes. Et là, on s'est tous réfugiés à l'intérieur de l'hôtel. On était donc au 903. Et vers les 15 heures, même un peu avant, on a commencé justement à arracher les pavés dans la rue, à faire des barricades. Enfin, les jeunes sont même montés sur des échafaudages pour aller chercher des drapeaux qui avaient été utilisés pour la grande fête du jour précédent. Et puis on a vu arriver sur la place San Francisco, à une cinquantaine de mètres en contrebas, hein, c'est une ville qui ressemble terriblement au petit chêne à Lausanne, pour ceux qui le connaissent. Cette ambulance s'est arrêtée, et quelques hommes en sont sortis, tous des civils. Ils ont commencé à tirer sur la foule. Les gens se sont simplement sauvés de quelques mètres, ils se cachaient derrière les immeubles.
Des civils sortaient des ambulances.
Ah oui, les ambulances avaient toutes été réquisitionnées par certains civils armés, qui portaient d'ailleurs des brassards blancs. Et depuis notre 903, ce qui nous a le plus touché, parce que je me suis ensuite enfui, bien sûr, de la rue, et on a eu de la peine à rentrer dans l'hôtel, puisque les stores de fer étaient déjà baissés. Et depuis le 903, eh bien, on a aperçu, par exemple, un civil en costume bleu, et qui, depuis le bas de la rue, criait « Vive le fascisme !» et qui s'est mis à tirer avec l'arme, son fusil à la hanche, et qui tirait dans les ruelles en hauteur. Il y a des images comme ça qui restent tout à fait gravées, parce que c'est quelques heures de fusillade, le début vraiment de la réaction populaire était assez troublant. Et ce qui m'a choqué par exemple, c'est de voir une femme qui, en plein milieu de la fusillade, pendant que cet homme criait, traversait la rue avec ses deux bambins. Le vendeur de barbe à papa qui était au milieu de la place et qui n'avait pas bougé, il faisait une espèce de tache rose un peu incongrue dans cette foule en pagaille. Et ensuite, eh bien, les gens revenaient à leur même place. Enfin, dès que la fusillade s'arrêtait quelques secondes, tout le monde reprenait sa place sur les barricades. Ou alors, ce qui m'a choqué aussi autour des 5 heures, c'était de voir des dizaines de gosses qui couraient dans les rues et qui vendaient déjà le premier journal. Ouais, le coup d'État était déjà sous presse à 5 heures.
Il y a une grande habitude dans cette population vis-à-vis des coups d'État. On les prend avec une certaine résignation, semble-t-il.
Une résignation presque totale, puisqu'en fait, ils réagissent d'abord sans armes. Enfin, lorsqu'on voit quelqu'un courir contre un tank à main nue, c'est assez troublant.
Et ça, vous l'avez vu?
Oui, bien sûr, mais dans les nuits suivantes. Et ce qui est certain aussi, c'est que ces gens sont tellement habitués à ces formes de réactions violentes que c'est pas seulement de la résignation, c'est même peut-être plus que ça, parce qu'ils savent pertinemment que même en réagissant, ils n'auront aucun résultat. Et le soir, eh bien, s'est installé, très rapidement, les premiers temps que l'armée a vraiment occupé la ville, le palais du gouvernement, pour la seconde fois. Et c'est seulement le 21, quelques jours après, que nous avons pu quitter la capitale, après avoir été bloqués, sans trop de difficultés d'ailleurs, dans la mesure où il a fallu discuter avec le nouveau gouvernement afin d'être assisté par 27 officiers. Les officiers tirent soi-disant moins vite que de simples soldats, afin de prendre la route pour le lac Titicaca, à peu près 80 kilomètres.
Mais pourquoi la route n'était pas sûre?
Non, la route n'était pas sûre. Il y a eu les survols de l'aviation qui avaient prouvé que tous les paysans avaient bloqué les routes. Et effectivement, c'est assez touchant. Ces 80 kilomètres, nous avons fait très tôt le matin, avant la fin du couvre-feu, avant 6 heures. Et arrivé sur la Puna, en altitude à 4000 mètres, cette immense Puna jaune, on a traversé plusieurs villages couleur de terre. Et systématiquement, tous les kilomètres, il y avait soit des barricades, soit des tapis de pierres, des pierres parfois minuscules. Enfin, les témoignages les plus touchants, c'était simplement d'aligner quelques pierres de quelques grammes en travers de la route, simplement pour montrer qu'elle était barrée, moralement plus que physiquement. Puis ce qui nous a beaucoup touché aussi, c'était de croiser tous ces regards, des gens qui nous observaient depuis leur maison, aux petites heures, qui regardaient passer cette colonne armée, et ces quelques touristes. On remarquait aussi peut-être que par ces regards, ils exprimaient beaucoup de choses, ils n'avaient rien d'autre d'ailleurs que ces quelques pierres qu'ils avaient déposées la même nuit, c'était les mêmes personnes qui les avaient déposées sur la route. En fait, je crois que c'est d'abord ces regards d'Indiens tout à fait impuissants dans un pays qui, d'une dictature à l'autre, d'un gouvernement à l'autre, paraissent bien semblables dans leur pauvreté.
C'était donc le témoignage de Maurice Efti sur le coup d'État du 17 juillet dernier en Bolivie.